Merci. D'abord, merci à Florence et les autres pour cette invitation. Et ce que je vais tenter de faire cet après-midi, c'est de répondre à quatre questions. Les quatre questions qui constituent le champ de recherche pour comprendre, pour développer une phénoménologie du rêve. Et je vais essayer de répondre à ces quatre questions, donc de proposer une sorte de phénoménologie du rêve, en travaillant la théorie du rêve ou la phénoménologie du rêve qu'on trouve dans Jean-Paul Sartre, dans l'imaginaire. Donc je ne veux pas présenter la théorie de Sartre, je veux la travailler. Qu'est-ce que ça veut dire la travailler? Je veux essayer de répondre à ces quatre questions à travers la phénoménologie du rêve dans l'imaginaire de Sartre. Et à travers les réponses que Sartre lui-même donne à ces quatre questions, je veux essayer de problématiser ces réponses. Donc ça, c'est le sens de travailler une théorie. Donc les quatre questions qu'on pourrait dire sont les quatre questions primordiales pour comprendre la rêve. Et d'abord, la première question, le rêve est-il une expérience perceptive ou bien une expérience imaginée? La deuxième question, quelle est la relation entre l'ego rêvant et l'ego rêvé? Ou en des autres termes, qui est endormi pendant le rêve et qui est le spectateur du rêve? La troisième question, quelle sorte de croyance caractérise le rêve? Ou bien, est-ce que le rêve est, dans la parole, dans une terme de Husserl, une neutralisation de toute croyance? Donc, est-ce qu'il y a une manière de croire qui caractérise le rêve, ou est-ce que le rêve est l'absence totale d'une croyance? Et la quatrième question, c'est la question, le rêve comporte-t-il une radicale perte du monde, ou bien est-ce que l'apparente Weltlosigkeit, donc la perte du monde qui caractérise le rêve, est-ce que cette perte du monde du rêve est elle-même une manière d'avoir possession du monde? Donc encore les quatre questions, est-ce que le rêve est une perception ou c'est une imagination? Qui est endormi pendant que je rêve et qui rêve? Qui est le spectateur? Troisième question, est-ce que le rêve est une manière de croire? Troisième question. Et la quatrième question, est-ce que le rêve est une perte du monde ou une appréhension du monde dans une autre manière? Donc ça, c'est les quatre questions et je vais essayer de répondre à ces questions en travaillant la théorie du rêve, la phénoménologie du rêve qu'on trouve chez Sartre dans l'imaginaire. Donc d'abord, je vais commencer par quelques remarques sur le statut exceptionnel du problème du rêve dans la construction de la théorie de l'imagination dans l'imaginaire. Si on regarde l'imaginaire comme une sorte de narrative, comme une sorte d'histoire, le discours de l'imaginaire a une structure très intéressante. Ça commence avec une critique de ce que Sartre appelle l'immanence de l'imaginaire. Donc il rejette l'idée que l'imagination est quelque chose qui est immanente dans la conscience. Donc c'est la critique de la manière de Sartre, de toute la tradition moderne de la conception de l'imagination. Donc c'est l'idée que l'imagination comme forme d'intentionnalité, que l'objet n'est pas dans la tête. Donc ça commence avec cette critique de l'immanence de l'imaginaire et la discussion du rêve qui conclut l'imaginaire. Le rêve va être présenté comme la réalisation parfaite d'une imaginaire qui est complètement immanente à soi-même. Donc, la structure très intéressante de l'argumentation de l'imaginaire, ça commence avec la critique de l'imagination comme une forme d'immanence, mais ça termine avec le problème du rêve, puisque le rêve est, comme Sartre lui-même, la réalisation parfaite de l'imaginaire. Et cette réalisation parfaite de l'imaginaire, c'est une imagination qui est complètement emprisonné dans soi-même. Donc c'est vraiment une structure paradoxale, et cette structure paradoxale, c'est la structure de l'imaginaire. Donc je vais essayer de comprendre cette statue paradoxale de l'imagination, du rêve dans la théorie de l'imagination de Sartre, pour comprendre ces quatre questions avec lesquelles j'ai commencé. Le défi qui est très vaste pour la théorie de Sartre, c'est que donc le défi qui est présenté par le phénomène du rêve, c'est que alors que Sartre explique l'imaginaire, et ça c'est un des arguments dominants dans son livre, que l'imaginaire est caractérisé par ce qu'il appelle une pauvreté essentielle vis-à-vis la richesse et la nouveauté de l'expérience perceptive, car une conscience qui imagine ne peut imaginer ce qu'elle connaît déjà. C'est une grande thèse de Sartre, qu'on peut imaginer simplement quelque chose qu'on connaît déjà. Le rêve semble être l'exemple inverse dans lequel l'objet imaginaire dirige la conscience de telle manière que notre conscience de l'objet onérique semble émaner de lui. Donc, le rêve a généralement la forme d'une surprise. Nous ne savons pas ce qui est sur le point de se passer. Nous rêvons des choses inattendues. Nous agissons de manière immorale, etc., etc. Donc, d'une manière, Sartre pense que l'imaginaire, c'est une pauvreté essentielle, puisque rien de nouveau peut se passer dans l'imagination, puisque l'imagination est toujours dépendante d'une savoir qui est acquise à travers une expérience perceptuelle. Mais de l'autre côté, le rêve, comme la réalisation parfaite de l'imaginaire, c'est une expérience de l'imaginaire qui est caractérisée par la forme d'une surprise, puisqu'on ne sait pas en avance ce qu'on va rêver. Donc ça, c'est un des défis de la théorie de l'imagination par le rêve. Un autre problème, c'est que notre conscience d'avoir rêvé est souvent marquée par le soupçon que nos rêves détiennent une sens plus profond, voire obscur, que nos rêves révèlent quelque chose de nous-mêmes et de notre monde, en bref, qu'il y a une sorte de vérité cachée dans nos rêves. Pourtant, suivant la description générale que Sartre fait de l'imaginaire, celui-ci est essentiellement appauvri. Et ainsi, par extension, le rêve l'est aussi, puisqu'il est dénué de toute force révélatrice authentique concernant la réalité, la mienne y compris. Donc, il ne s'agit pas d'affirmer que les rêves ne sont qu'une bruit dénuée de sens. Donc, Sartre ne rejette pas l'idée qu'un rêve a du sens, encore que sa véritable significance doit obscurir toute rencontre authentique avec la vérité du monde. Donc, l'idée de Sartre, c'est que d'une manière, l'imagination n'est jamais une révélation de la vérité, puisque ça, c'est l'essentielle pauvreté de l'imagination. Mais dans le rêve, on peut dire qu'il y a quelque chose comme l'intrigue du rêve. Et l'intrigue du rêve, c'est qu'il y a quelque chose comme une vérité qui est cachée dans le rêve. Et donc, ça, c'est une autre, on pourrait dire, paradoxe ou contradiction. Et ces contradictions et paradoxes sont les points de départ dans la théorie de Sartre pour comprendre, d'un point de vue phénoménologique, le rêve. Donc, l'argumentation sartrienne contre les rêves comme expérience perceptive devient, et ça c'est le troisième point, une analyse fine de la différence constitutive entre conscience de soi et la réflexion, tant pour la perception que pour les rêves. Puisque suivant la compréhension de Sartre, la conscience en tant que telle, qu'elle soit perceptive ou imaginative, est consciente elle-même ou autoconsciente de manière très réflexive. Courant pour attraper un bus, l'objet de ma conscience est le bus, non pas mon propre acte de courir ou percevoir. Bien que c'est vers le bus que je suis orienté, je suis simultanément conscience de moi-même qu'en étant en train de courir après le bus, mais cette conscience de soi dans la manière où je suis en train de rattraper le bus n'est pas une conscience réflexive. Donc, dans le vocabulaire de Sartre, c'est très réflexif. Donc, la conscience intrinsèque de soi n'est ni une forme réflexive de conscience, ni une sorte de perception interne. Et cette conscience de ce qu'on pourrait appeler la miennité, en anglais « the mindness », de ma conscience, peut s'actualiser en un objet pour moi-même, comme lorsque je réfléchis à pourquoi je suis en train de courir ou lorsque je me reconnais comme vu par des autres. Dans le cas de l'expérience perceptive, le passage d'une conscience de soi pré-réflexive à une conscience de soi réflexive n'anéantit pas le flux continu d'expérience. Je continue de percevoir le bus lorsqu'il démarre de l'arrêt, alors que je déploie la faiblesse de mes jambes et ma lacune en gestation du temps. Mais dans le cas de le rêve, on voit qu'il y a une autre relation entre conscience de soi pré-réflexive et conscience réflexive. Puisque dans le cas des rêves, la conscience réflexive de soi, on pourrait dire, se renverse entièrement dans l'expérience onérique. Implicitement ici est contenue une conscience du rêve comme une étang de forme, et ça c'est un mot technique de Sartre, métastable, de conscience qui peut se trouver ou peut se perdre hors d'elle-même. Et le phénomène du rêve lucide et des faux rêves, des faux réveils, représente différentes permutations de l'expérience onérique comme métastable, comme une sorte de conscience qui a une sorte de désintégration perpétuelle. Et cette force, il y a une sorte de paradoxe, c'est que si j'ai une conscience réflexive de moi-même comme rêveur, j'arrête de rêver. Et donc ça, c'est la différence entre la relation pré-réflexive et réflexive dans une expérience perceptive et dans une expérience du rêve. C'est que dans le rêve, je ne peux pas être à la fois conscience que je rêve et toujours dans le rêve. Mais dans l'expérience perceptive, je peux être à la fois conscience que c'est moi qui cours après le bus et cette conscience lui-même de courir après le bus. Donc on peut dire que dans l'expérience du rêve, il y a une sorte de bifurcation entre conscience de soi pré-réflexive et conscience réflexive. Toute réflexion sur mon rêve fait de ma conscience en sommeil un objet pour une soi désormais éveillée. En devenant, et maintenant je veux formuler ça dans une vocabulaire sartrienne, en devenant une transcendance pour moi-même, puisque comme vous le savez, l'ego chez Sartre est une transcendance, c'est un objet qui est constitué. En devenant une transcendance pour moi-même, je brise nécessairement le charme du rêve et son immanence renfermée sur elle-même s'effondre. Que la réflexion soit une éveil de soi-même en tant qu'elle est située dans le monde, renforce encore le sujet univoque de Sartre du fait qu'il pourrait y avoir la moindre délibération réfléchie et décessive au sein du rêve. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rêver que nous prenons des décisions ou que nous ne pouvons pas intervenir dans le drame de nos rêves. Donc, on peut rêver ou dans un rêve, on peut croire qu'on prend des décisions. Et on peut aussi intervenir dans le rêve, mais tout ce process de faire des décisions dans un rêve et d'intervenir dans un rêve n'est pas une réflexion, une conscience réfléchie, puisque une conscience réfléchie est équivalente à une conscience qui s'éveille. Il n'y a pas cependant aucune force contraignante dans les décisions prises en rêve. D'ailleurs, il n'y a pas à première vue de responsabilité morale ou de culpabilité pour des actes immoraux au lieu pendant le rêve. Donc si je fais quelque chose d'immoral dans le rêve, d'une manière, je ne peux pas être responsable. Une rêve exclut la possibilité de la protestation qu'en y étirant pas immédiatement le rêve, en tant qu'opposé au changement à partir de lui-même. Il y a un autre terme. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la pensée de Sartre. Il n'y a aucune possibilité d'engagement dans le rêve. Soit l'engagement dans le monde peut être motivé par une rêve, soit nous sommes responsables des actions dans le monde effectuées en dormant. Donc la chose très intéressante pour Sartre, c'est que si c'est impossible d'avoir une conscience réflexive dans le rêve sans que le rêve est lui-même détruit, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'un engagement dans le monde à travers un rêve. Et bien sûr, ça, c'est une question très importante puisqu'on peut prendre des exemples. Et je veux simplement mentionner deux exemples. D'abord, un exemple où je prie une décision dans un rêve qui est elle-même, comme décision, une sorte d'engagement dans ma vie réelle. Et ici, l'exemple que je vais mentionner, c'est dans la recherche du temps perdu de Proust. Le rêve de Swann à la fin d'une amour de Swann qui l'amène à rompre sa relation avec Odette. Donc c'est dans un rêve que Swann réalise qu'il y a une sorte de faussité avec sa relation avec Odette. Il prend une décision dans ce rêve de rompre la relation avec Odette et quand il s'éveille, cette décision a été prise. Donc cette idée que je m'engage dans le monde à travers un rêve, semble être impossible dans la théorie de rêve de Sartre. Un autre exemple, un autre problème, c'est la question si je suis responsable des actions que je fais quand je rêve. Et ici, je vais retourner à cet exemple. Il y a un exemple qui a une sorte de résonance politique. C'est dans le film de la République de Weimar, le cabinet de Dr. Caligari, où dans ce film, il y a un personnage qui commet des meurtres, mais il commet ses meurtres comme somnambule. Donc, il n'est pas conscient de lui-même, il est dans une sorte de rêve. Et comme vous le savez, ce film, le cabinet de Dr. Caligari, est vu comme un film qui est une sorte de critique de fascisme. Donc, tout un peuple est endormi, qui commet des crimes, mais qui ne sont pas responsables. Je vais retourner à cette idée, puisque une chose que je veux montrer à travers cette problématisation de la théorie du rêve chez Sartre, c'est que la théorie du rêve chez Sartre, c'est aussi en même temps une sorte de théorie de l'idéologie politique. Puisque d'être dans une idéologie politique, c'est d'être dans un rêve. Donc la conscience de soi est intrinsique aux expériences perceptives, imaginaires et les expériences du rêve, mais d'une manière différente. Et la chose qui est intéressante, c'est vraiment la radicalité de la différence de cette conscience de soi intrinsique dans l'expérience du rêve. Une expérience de soi qui est pré-réflexive et qui ne peut pas passer au niveau de réflexivité sans détruire l'expérience lui-même. Et donc ça, c'est la singularité du rêve. Et la différence, c'est que, on pourrait dire que cette différence, c'est la manière dans laquelle, pour Sartre, le rêve, c'est une sorte de conscience qui est emprisonnée dans soi-même sans se connaître emprisonné. Puisque de se connaître comme une conscience qui est complètement renfermée dans soi-même, c'est de briser l'emprisonnement lui-même. Et donc ça, c'est la manière radicale que Sartre propose que le rêve, c'est une conscience qui est complètement renfermée dans lui-même, une conscience qui est conscience de soi, puisque je suis conscience de rêver, mais je ne suis pas conscience que c'est moi qui rêve. Et d'être conscience que je rêve, c'est de briser l'expérience de rêver. Et donc ça, c'est cette radicalité d'une conscience qui est complètement imminente en soi-même, sans que cette conscience a complètement perdu une conscience de soi, mais cette conscience de soi ne peut pas passer à un niveau d'objectification et se tenir dans cette attitude, dans cette expérience. Donc la différence, donc ça c'est la première différence entre rêve et des autres formes de conscience, c'est une conscience d'être complètement emprisonné dans soi-même sans être conscience de cet emprisonnement. La différence constitutive entre perception, imagination et rêve est davantage explorée par Sartre à moyen d'une assimilation d'un autre problème et d'une autre différence, et ça c'est la différence entre savoir et croyance. L'expérience perceptive est fondamentalement caractérisée comme la manière par laquelle le monde se révèle à nous. C'est seulement dans l'expérience perceptive que des objets sont authentiquement rencontrés au sens où ils sont donnés dans des formes variées d'évidence. Selon l'estimation de Sartre, la perception d'une chaise me présente moi-même avec la chaise qui est elle-même en char et en haut. Elle ne me présente pas Elle ne m'est pas présentée adéquatement, puisqu'il y a des côtés différents, mais quand même, c'est très important pour Sartre que la perception, c'est une manière de révélation. C'est la manière dans laquelle le monde elle-même se montre et se donne à moi. Et pour Sartre, ça veut dire, ça c'est quelque chose de très intéressant pour lui, que si la perception, c'est une manière de donation originelle du monde, donc, pour lui, la perception n'est pas principalement une question de croyance. Donc, Sartre a une définition très spéciale de croyance. Puisque percevoir une chaise, pour Sartre, ce n'est pas de croire que cette chaise est devant moi. C'est d'être en présence d'une chaise. Donc, de percevoir une chaise n'est pas d'avoir une croyance qu'il y a une chaise. C'est seulement de percevoir une chaise. Et le problème de croyance, c'est toujours quelque chose que pour Sartre arrive ou entre dans la scène de perception à travers ce qu'il appelle une modalisation de la perception. Donc c'est quand le monde devient problématique, devient douteuse, qu'il y a quelque chose comme une croyance. Il ne s'agit pas, bien sûr, de nier que les croyances structurent et informent notre expérience perceptive. Donc, le problème de Sartre n'est pas que la perception est une forme de connaissance qui exclut la croyance, mais plutôt que la croyance au service des perceptions ne peut qu'être persuasive, ça veut dire vraie ou fausse, en termes de recours à l'évidence. Et c'est-à-dire à des manières dans lesquelles le monde se révèle lui-même comme étant tant, comme étant tel et tel. Et nous pouvons apprendre de l'expérience perceptive au sens où nous avons, à travers la perception, une sorte de perspicacité, une sorte de connaissance des choses dans le être véritablement. Et ça, ça va être le contraire avec le problème de le rêve. Puisque Sartre va déterminer le rêve comme une attitude qui n'est pas perceptive, puisque c'est une attitude de ce qu'il appelle pure croyance. Donc, le rêve est une pure croyance qui n'a aucune relation à une possibilité de vérité ou de faussité. Donc, c'est une autre manière dans laquelle, pour Sartre, le rêve, c'est la manière dans laquelle la conscience s'est enfermée dans soi-même sans possible relation au monde. Et ici, c'est dans cette manière où Sartre caractérise le rêve dans une manière très forte où il dit que le rêve est l'attitude de la conscience dans laquelle la conscience a perdu toute fonction du réel. Et le rêve est une forme temporaire de psychose. Une psychose dont je peux me réveiller. Donc l'autre manière dans laquelle Sartre essaie de caractériser le rêve, c'est à travers l'idée de psychose. Donc c'est une rupture totale avec la possibilité de la vérité du monde et de la vérité ou faussité de l'expérience du rêveur. Donc on pourrait dire que cette expérience onérique n'est pas seulement caractérisée par une croyance qui est auto-induite, donc c'est une croyance que je créais pour moi-même sans être consciente que c'est moi qui créais cette croyance. On peut dire que le rêve est autant une forme suprême de narcissisme qu'une fascination envers soi-même qui ne se sait pas elle-même captive de ses propres croyances. Bien que le rêve soit purement à moi seul, il manque de tout sens de miennité. Dans le rêve, la conscience, et ça je veux proposer cette formulation, s'immunise, donc devient immune, contre toute évidence possible. Donc, le rêve, c'est une sorte de structure d'immunisation de soi contre la possibilité de vérité. Et ça veut dire que le rêve est une structure où la conscience a immunisé elle-même contre la persuasion de toute évidence. Je veux proposer qu'il y a une richesse philosophique dans cette caractérisation du rêve qu'on peut trouver chez Sartre comme une conscience emprisonnée dans soi-même. Et la forme de cet emprisonnement, c'est que la conscience est immunisée de toute persuasion d'évidence. Je pense que la richesse philosophique de la caractérisation phénoménologique que Sartre fait du rêve ne devient visible que dans l'être néant, avec son traitement magistral de la mauvaise foi. Puisque en tant que forme de autodéception qui définit notre être au monde et notre vie éveillée, donc dans la discussion de mauvaise foi dans Être néant, la chose qui est très frappante, c'est que Sartre observe que chacun est lui-même de mauvaise foi lorsqu'il va dormir et chacun est de mauvaise foi lorsqu'il rêve. Donc, d'être dans la mauvaise foi, c'est d'être dans une rêve. Mais ce n'est pas une rêve qui est rêvée d'une manière quand je suis endormi et c'est rêve, c'est une rêve qui est vécue. On peut dire que avec tout comme avec les rêves, la mauvaise foi est une mode de conscience qui s'est immunisé lui-même de la persuasion de toute évidence. Et ici, je veux proposer que Sartre a implicitement donné une articulation très forte d'une notion de stupidité. Une notion de stupidité où les rêves comme la mauvaise foi est définie, et une manière où on définit notre existence par un désir de ne pas savoir. Et ainsi, de ne pas confronter la possibilité de l'évidence pour ce que je suis. Donc, on peut dire que la mauvaise foi, comme elle est décrite dans Être néant et le phénomène du rêve dans l'imaginaire, ont une structure de stupidité. Stupidité dans le sens où stupidité n'est pas la manque de l'intelligence, c'est l'intelligence qui est mobilisée pour s'immunaliser contre la possibilité que cette intelligence ou ce savoir que je suis pourrait être fausse. Donc on peut dire que le désir qui anime la mauvaise foi, la stupidité et le rêve, c'est un désir de ne pas savoir, à son propre être au monde, afin de croire d'autant plus avec faveur ce qu'il veut être vrai. Donc on peut dire que je ne veux pas savoir ce qui est vrai, pour croire ce que je pense est vrai. Et la caractérisation sartrienne de la mauvaise foi en tant que rêve que je vis fournit de cette manière un modèle fructueux pour la compréhension de l'idéologie collective comme fausse connaissance ou fausse conscience et les formes d'autodéception qui structurent notre existence. Et elle donne aussi, et ça c'est aussi très frappant, que cette notion de rêve comme une structure de ne pas savoir pour y croire à quelque chose que je veux être vrai, sans exposer cette croyance à la possibilité qu'elle pourrait être vraie ou fausse, n'est pas seulement la structure d'une sorte de stupidité intelligente, ça veut dire une stupidité basée sur un savoir, n'est pas seulement une modèle pour l'idéologie politique, mais je pense ici, et ça c'est vraiment le grand génie de Sartre, que Sartre touche ici sans doute la fascination philosophique la plus profonde pour le rêve, telle que formulée par Platon à l'origine dans l'allégorie de la caverne, à savoir que ce qui signifie se connaître soi-même, c'est s'éveiller d'une torpeur dogmatique, celle de ses croyances, images, convictions et innombrables voies dans laquelle nous nous emprisonnons nous-mêmes afin de nous protéger de toute rencontre authentique avec le réel. Même lorsque nos yeux semblent être grands ouverts, il peut rester à notre issue qui sont grands fermés. Et en anglais, je dirais ça, puisque ce texte j'ai écrit en anglais. When we think that our eyes are wide open, they can nonetheless, in fact, be wide shut. Et ça, je pense que, pour répéter le grand génie de la théorie du rêve chez Sartre, c'est que c'est une théorie du rêve, c'est aussi une théorie de stupidité, c'est une théorie de mauvaise foi, c'est une théorie de la conscience politique comme idéologie, et finalement, c'est une théorie de qu'est-ce que ça veut être d'être un philosophe. C'est, comme Merleau-Ponty a dit, c'est de s'éveiller et de parler. Et donc ça nous amène à cette idée que on peut rêver, on peut être emprisonné dans notre conscience quand on rêve, mais on peut aussi être emprisonné dans notre conscience quand, d'un point de vue psychologiquement, on rêve pas, mais du point de vue ontologiquement, on est dans une sorte de rêve. Et ça, c'est la structure d'une mauvaise foi, puisque quand je suis dans la mauvaise foi, ou quand je suis structuré dans une forme de stupidité, ou quand ma conscience est structurée à travers une sorte d'idéologie politique, d'un point de vue psychologique, je ne dors pas, mais je rêve. Et on peut dire, et ça c'est l'allégorie de la cave chez Platon, que la question fondamentale de la philosophie, c'est de comprendre si on rêve ou pas, d'une manière ontologique, donc pas simplement d'une manière psychologique. Et donc ça, c'est la manière dans laquelle, en commençant avec la question « qu'est-ce que c'est une phénoménologie du rêve ?» à travers le problème « est-ce que le rêve est une perception ou une imagination ?» la question « qui dort, qui rêve ?» la question de la croyance et la question de la relation du rêve au monde, Sartre arrive à briser sa propre structure, puisque c'est pas une structure où d'un côté il y a quelque chose comme le rêve, et d'un côté il y a quelque chose d'autre, mais c'est une structure plutôt compliquée, où le rêve peut être rêvé quand je dors, mais je peux être aussi endormi quand je suis éveillé que ma vie est une rêve. Et ça, on peut dire, c'est la flexibilité de la théorie sartrienne, de donner une phénoménologie du rêve qui parle à ces deux problèmes sans une confusion qu'il y a, séparation, puisque bien sûr il y a une différence entre une rêve que je rêve quand je dors et une rêve qui est, on pourrait dire, ontologique. Donc je veux conclure avec un exemple un exemple pour montrer la manière dans laquelle Sartre a indirectement trouvé une notion d'une rêve onérique qui est une rêve qui est rêvée quand je ne suis pas endormi. Donc il brise toute cette structure d'opposition. Est-ce que le rêve est perception, imagination, quand je dors pas, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'une rêve qui est une rêve dans la mode de la vieille, donc pas une rêve endormie, c'est une notion qui a été proposée par Merleau-Ponty. Puisque Merleau-Ponty propose cette idée que, comme il dit, la distinction entre conscience perceptive et conscience imaginaire est clair pour autant qu'un objet sensible ou un corps vivant est concerné, mais ni le rêve ni le monde de la vieille sont composés de cela. Ce qui porte en doute l'opposition entre rêve imaginaire et expérience perceptive est la présence continuelle du rêve au sien de la vieille. Nos rêves demeurant impressionnants et pas seulement sous la forme de souvenirs, mais après le réveil. Pour ainsi dire, cette percée du rêvé dans la vie éveillée ne permet pas seulement au rêvé d'élargir un espace herméneutique de compréhension de soi. Si nous considérons également le retour du flamme du rêve comme si c'était la manière par laquelle le rêve amène à s'exprimer une situation narrative au sein de la vieille, nous sommes conduits vers la suggestion de Merleau-Ponty de ce qu'il appelle un onérisme de la vieille, composé des croyances perceptives, le flux et le reflux qui soutient nos actes et nos abstentions, nos discours et nos silences. C'est une sorte de discours silencieux, comme Merleau-Ponty l'appelle. Et ce discours silencieux, c'est la formation de mes relations avec les autres et leurs relations entre eux. Et un indice afin de débrouiller davantage, c'est-à-dire de poursuivre ces questions gravitant autour de cette idée qu'on peut rêver dans la vieille comme une sorte de discours silencieux, on peut trouver un indice si on pense à cette thèse qui était proposée par un phénoménologue pas très connu, qui était un étudiant de Husserl qui s'appelle Wilhelm Schaap. William Schaap a écrit un livre en allemand qui s'appelle « In Geschichten verstrickt », donc « Emmêlé, emprisonné dans les narratifs », où il parle explicitement des narratifs onériques et la transition entre des narratifs onériques qui sont des narratifs dans le rêve propre, quand je dors, et des narratifs onériques qui se déploient dans la vieille. Il écrit... Je cite, « L'histoire du rêve peut être inséparablement liée avec une histoire effectivement réelle ou, pour le dire mieux, avec une histoire dans laquelle nous sommes pris au piège, de sorte que les deux ensemble seulement représentent l'histoire en entier. » Et je veux conclure avec un exemple de cette possibilité d'une narrative dans laquelle nous sommes emprisonné, une narrative qui est rêvée et que ce rêve est notre vie elle-même, comme une vie qui est éveillée, mais d'une manière qui n'est pas éveillée à le rêve, à le discours silencieux qu'elle rêve dans, cette, dans le contexte d'être éveillée. Et ici, l'histoire que je veux prendre comme exemple pour conclure, donc, pas pour, donc pour amener la discussion à ce problème que toutes les questions avec lesquelles j'ai commencé, qui étaient des questions d'opposition. Est-ce que le rêve est soit perception ou imagination, soit quelque chose qui est endormi ou pas endormi, que la théorie de Sartre, on peut dire, déconstruire cette structure. Avec cette idée qui est implicitement chez Sartre, qu'il y a des rêves qui sont inscrits dans la vie éveillée elle-même. Et donc, je veux terminer avec un exemple pour montrer qu'il y a un vrai problème ici. Et l'exemple, c'est le roman de Schnitzler, Arthur Schnitzler, qui s'appelle Traumnovelle. Et le roman Traumnovelle, c'est la novelle sur laquelle le film de Kubrick, Eyes Wide Shut, qui est le titre de mon propos, est basé. Tel qu'exploré dans Traumnovelle de Schnitzler, les rêves sont enchevêtré avec les narrations que nous articulons pour nous-mêmes et pour les autres pendant nos heures de vieille. La Traumnovelle commence, si vous vous souvenez du film aussi, du texte, par une portrait inaugurale d'une famille bourgeoise, apparemment normale, encadrée par une distinction claire entre immersion fictive dans une histoire et une conversion prolongée entre l'homme et femme, Fridolin et Albertine. Donc, le film et aussi la nouvelle commencent avec l'homme et la femme qui sont en train de raconter une histoire fictive à leurs enfants et l'enfant va s'endormir et après ça, l'histoire commence de la relation entre les deux. Donc, ça commence avec, il y a la fiction immersive du rêve endormi, qui est fiction, une fable, et il y a la vie éveillée qui n'est pas une fiction et c'est distinction va être déconstruite à travers le Traumnovelle. Puisque après qu'ils mettent leur enfant au lit à travers une fiction, une histoire pour les enfants, revenant à leur conversation, donc entre Fridolin et Albertina, chacun raconte ses expériences respectives lors d'une balle masquée qui s'est déroulée la nuit précédente. Chacun raconte ses expériences chacun en scrutinant les réactions de l'autre à l'apparente attraction sexuelle et aux opportunités manquées que chacun ressentit lors de cette soirée avec d'autres invités. Et si vous avez vu le film de Kubrick, cette scène est magnifique puisque c'est avec dans la lumière qui est très comme une lumière de rêve pour voir le film. La nouvelle s'ouvre sur une séquence de confessions. Donc, il y a des confessions entre Tom Cruise et Nicole Kidman, de confrontations et de révélations exposant une ambivalence sous-jacente et une tension sexuelle dans le mariage. Et commençant avec les narrations de leurs vacances d'été au Danemark l'année précédente, dans la première histoire, Albertine raconte comment, par chance, elle engageait et elle échangeait des regards avec une jeune et mystérieuse officier et se sentit immédiatement excitée sexuellement, passant le reste de la journée, comme elle dit, perdue dans les rêves. Donc elle imagine, ça pourrait être une aventure, je suis attirée sexuellement à cette jeune homme. Et tentée par la possibilité d'aventure. Et Fridolin confesse une histoire similaire alors que la nouvelle raconte une série contrastée des rêves d'Albertina et des aventures nocturnes de Fridolin qui progressivement troublent toute distinction claire entre rêve et réalité, telle qu'indique l'expression séduisante de Schnitzler en allemand « traumhafte Realität ». Donc il décrit cette expérience de la destruction de la distinction claire entre rêve et réalité comme « die traumhafte Realität ». Donc, dans les termes de Merleau-Ponty, l'onérisme de la vieille. Cette notion est ici présentée avec vivacité. Les rêves d'Albertine germent dans les rencontres sensuelles en une sens à la fois perceptive et désirable, c'est-à-dire sexuelle, durant sa vie éveillée. comme s'ils étaient cristallisés autour de moments lancinantes ambivalence. La sédimentation d'une conscience onérique au sein de la vieille et l'inconsciente, non pas en tant qu'élément séparé au sein de la conscience, ni en tant que produit d'une quelconque mécanisme de refoulement, mais en tant que cristallisation de possibilités à partir d'une insulable ambivalence qui structure notre vieille. Est-ce que j'aime vraiment ma femme? Suis-je attiré sexuellement par cette autre femme? De cette sédimentation d'ambivalence, donc il y a une sédimentation d'ambivalence dans la vie éveillée, et c'est à travers cette sédimentation d'une ambivalence des possibilités dans la vie qui est la vieille, qui émerge le noyau, ce que Merleau-Ponty appelle le noyau lyrique de l'humanité, l'inconscience et ses aventures onériques. Si nous rappelons de la double fonction de la conscience imaginante chez Sartre, la motivation sous-jacente des rêves est une sorte de refus ou un déni du monde. Mais nous pouvons réfléchir cette idée suivante, l'affirmation générale, que c'est une ambivalence au sein de mon être au monde propre qui provoque déjà la fuite dans le rêve imaginaire. Le monde est perforé de trous ou d'échèvrement, l'inconnu, le risque, la résistance à mes projets, les désirs des autres, etc. Et on peut dire que toute l'ontologie de Sartre, c'est l'ontologie des trous. Puisque la métaphore de trou, c'est la métaphore capitale dans l'ontologie de Sartre. Tel que Sartre le décrit d'une manière extrêmement suggestive dans l'être néant, la présence de l'autre est appartenait à une trou de drainage vers laquelle le monde s'éclipse, organisé autour de ses projets, intentions et désirs, et en cela en tension perpétuelle avec les miens. Donc le monde, c'est une structure d'ambivalence des trous. Et j'essaie de remplir ces trous avec une plénitude à travers le projet d'une rêve que je veux essayer de réaliser. Vu par cette ontologie des trous emprisonnants qui définit la pensée de Sartre, l'imaginaire tente de combler les trous produits par le réel lui-même. Mon amant me manque, je soutiens la serrer dans mes bras de nouveau et je l'imagine ainsi. Je place une icône religieuse près de mon cœur, etc., etc. À la fin de la trame novelle, après que Fridolin soit finalement retourné à la maison suite à une seconde nuit d'aventure, suite également à une autre rêve révélateur d'Albertine, et après une nuit prolongée de Fridolin racontant tout, alors que l'aube laisse entrevoir ses premiers rayons, Fridolin demande: que devrons-nous faire maintenant, Albertine? Elle répond: je pense que nous pouvons être reconnaissants que nous soyons sortis indemnes de toutes nos aventures, qu'elles fussent réelles et bien juste un rêve. Silencieusement, ils s'allongent l'une contre l'autre dans le sommeil, ensemble et proches sans rêve. Et ici, c'est une très belle phrase en allemand. Schnitzer écrit: So lagen sie beide schwiegende, donc ich parle pas, beide wohl auf wenig schlummen und einander traumlos nah. Donc la proximité, la vraie amour d'être proche avec une autre, c'est d'être dans une proximité qui est sans rêve, mais aussi sans réalité. Donc c'est l'expérience de traumlos nah. Donc on pourrait dire que posséder une vie qui serait traumlos nah, envers soi-même, envers les autres, envers le monde, serait un monde de silence et de paix, un monde expérimenté avec les yeux grands ouverts, sans entraver ni de lumière ni d'obscurité. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura des questions ou des réflexions, remarques sur le vrai?
J'ai l'impression que, pour exposer, les rêves étaient, oui, donc l'idée, c'est quelque chose d'emprisonnant, qui est un peu nous empêchait d'aller arriver vers la vraie réalité. Et je me demandais ça se trouve, le rêve peut être quelque chose de libérant. Puisque dans le fait qu'on croit, on va dans l'action parce qu'on est. On se sent plus touché par la chose. Quoi. Si on croit dans une idéologie, on faisait un parallèle avec les idéologies et les croyances en rêve. Dans une idéologie, c'est parce qu'on a tous une idéologie qu'on veut passer à l'action. Si je suis seul avec du savoir pur, parfois ça pourrait peut-être aussi me bloquer parce que j'aurais plus d'informations. J'ai l'impression que en fait, c'est un peu ce rêve, cette illusion permet aussi parfois d'avancer dans des endroits, d'avancer des actions qu'on n'aurait pas pu faire si on était vraiment extrêmement.
Donc, une des thèses principal de Sartre, c'est que l'imagination, et je vais le formuler dans un autre vocabulaire, c'est une stratégie de simplification de la complexité du monde. Ça, c'est l'imagination. Et donc, cette simplification de la complexité du monde, c'est aussi une simplification de l'ambiguïté des possibilités qui sont tout possibles et des possibilités qui ne sont pas dans mon pouvoir. Donc, c'est cette idée que le monde, c'est une ontologie des trous. Et aussi, c'est aussi quelque chose de très important que cette ontologie des trous, c'est une sorte d'économie de désir, puisque le manque de l'être, c'est le désir de l'être. Donc, ça veut dire que la sensation ou la conscience d'une émancipation ou libération vis-à-vis le monde à travers l'imagination et d'une manière toujours fausse, pour Sartre. C'est le sens dans lequel il n'y a pas d'engagement. Donc, dans cette manière-là, on peut dire qu'on se réfugie dans l'imaginaire en croyant que dans l'imaginaire, il y a quelque chose comme le véritable point de référence pour une action politique. Mais en fait, c'est une refus de confronter la réalité politique du monde. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire que la structure de l'imagination comme structure de motivation politique est toujours une structure utopique. Et c'est aussi toujours une structure où je désire de détruire le monde dans sa complexité pour l'établir dans une sorte de simplicité dans laquelle je peux croire. Et donc, il y a vraiment chez Sartre, et ça c'est une question intéressante, que si on regarde le développement de la pensée politique chez Sartre, en commençant avec qu'est-ce que c'est la littérature, on peut voir l'argument contre la littérature, d'une certaine littérature, et aussi contre la poésie, comme un argument contre l'utilisation de l'imagination dans la politique. Avec une exception, puisque la poésie, dans quelque sens, c'est la littérature, c'est l'exemple paradigmatique d'une imagination enfermée en lui-même qui n'a pas la possibilité d'engagement. Donc pour lui, c'est la tradition de la poésie en France qui avec Mallarmé, la poésie absolue. Donc on voit là aussi que la poésie, c'est une prose qui est complètement enfermée en soi-même et qui n'a pas de possibilité d'engagement. Mais la seule exception, c'est que dans son article « L'Orphée noir », qui est l'interprétation du mouvement négritude, donc de la poésie de négritude dans Senghor et les autres, Sartre dit quelque chose de très intéressant. Il dit « La négritude, c'est une poésie, mais c'est une poésie où il y a l'holocauste de la langage. » C'est l'holocauste de la langage, puisque ce sont des poètes qui ne sont pas français, ils sont noirs. Ils n'ont pas une langue propre. Ils doivent parler français, mais ils veulent parler français pour détruire l'idée même imaginaire de la France. Qu'il y a une propre manière d'être français, d'être bourgeois, etc. Et à travers la poésie de négritude, il a l'holocauste de la langage. Et l'holocauste de la langage est l'engagement politique. Donc ça, c'est la seule exception où il y a une sorte de productivité politique de l'imagination, mais c'est une imagination qui est l'holocauste.
est-ce que vous pouvez pas rapprocher votre développement de l'univers avec notamment le concept de magie, c'est ça? Je pense notamment, en fait, par exemple, quand quelqu'un qui rate veut cueillir des raisins et il rate son geste, et alors il dit ils sont trop verts. Est-ce que dans tout ça, vous ne pensez pas qu'il y aurait moyen de relier la lecture de l'imaginaire à une certaine lecture de l'esquisse en montrant que finalement on est toujours dans des thématiques de fruits, comme vous l'avez rencontré, il y a l'anthologie des fruits, ce qu'on dit, etc.
Oui, vous avez tout à fait raison que donc il y a des manières différentes dans lesquelles Sartre va décrire l'imagination, la fonction constitutive et déconstituante de l'imagination, puisque la nihilisation, c'est toujours constitué et déconstitué en même temps. Et un registre, c'est la magie, puisque la magie, dans la manière dans laquelle Sartre pense, c'est exactement que je désire de voir Pierre. Pierre n'est pas dans la chambre. Je constitue l'objet de Pierre pour le posséder. Et je veux satisfaire mon désir de voir Pierre. Le monde ne satisfait pas mon désir, donc je nie le monde. Et j'établis un autre monde, d'une manière magicale, dans laquelle je produis ma satisfaction à moi-même en me produisant l'objet. Et ça, c'est la magie. Et on peut dire que la chose ici très intéressante, c'est que cette structure de la magie comme l'appropriation du monde, comme un monde que je construis pour me satisfaire, c'est la structure narcissistique de l'imaginaire. Et ça veut dire que toute l'imagination, c'est la structure de l'enfant. Donc on peut dire que la tragédie de l'homme, c'est qu'on reste toujours enfantine d'une manière, puisque l'enfant, c'est lui qui imagine un monde pour se satisfaire sans le détour du monde. Et donc, on est des enfants de cette manière-là. Et je pense que la notion de magie, c'est très important aussi pour voir cette notion qu'il n'y a jamais vraiment l'homme qui n'est pas enfant. Et on voit ça aussi dans les mots. Puisque toute l'autobiographie de la jeunesse, c'est « je suis dans un monde magical que je construis », qui est la littérature. Donc c'est exactement aussi le problème de l'émotion. C'est la magie. Et ça, c'est, je pense, cette idée que quand Schnitzler dit que pour être vraiment proche avec l'autre, c'est un monde sans imagination, sans magie. Et ça, c'est paradoxal, puisqu'on pense que c'est à travers le désir, l'imagination, la magie, qu'on peut vraiment être à côté de l'autre. Mais on ne peut jamais être à côté. On peut jamais vraiment dormir sans désir à côté de l'autre. Et de dormir sans désir, c'est d'être, de dormir sans rêver.
D'une certaine manière, l'envie de reprendre ce que vous pouvez dire, mais j'ai l'impression que ça me rappelle une phrase de Derrida dans la première conférence de nos États-Unis, où il dit en fait la cohérence dans la contradiction, c'est la force du désir. Et j'ai l'impression qu'avec la magie et le rêve en tant que tel, c'est ça qu'on fait. Enfin, parce que la dernière phrase que vous venez de dire à propos du roman, j'ai l'impression que c'est ça qu'on pointe. Mais ce qui est très difficile à dépasser, c'est très difficile à vivre. J'ai l'impression finalement que dans tout ce que vous venez de dire avec ça, c'est finalement l'impossibilité d'un tel désir de l'autre.
Oui, exactement. Voilà, je pense que vous avez vraiment touché le point où on peut dire un vrai amour de l'autre. Puisqu'on pourrait dire que c'est la contamination de l'amour avec le désir. Et cette contamination, c'est la condition tragique, ontologique de l'homme, pour le dire grosso modo. Et donc, je pense qu'au fin de Traumnovelle, cette proximité des deux corps qui peut dormir et être silencieux, c'est l'amour propre. Donc c'est une relation sans désir qui est la pureté de l'amour, on peut dire. Donc, et je pense que de ce point de vue, on peut dire que l'univers sartrien, c'est un univers où l'amour est impossible. Donc, l'âme est une passion inutile.
Donc, prendre nos idées. Merci beaucoup en tout cas.